marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Là, ici.
Les sports virils populaires, ou comment se faire respecter.
Direct du droit, et là tu finis par retourner marteau dans la face.
Oh là là, putain.
Ça doit être balèze ton entraînement alors.
Eh Karim, il en fait un bagneux, tu sais ce qu'il m'a dit. Là-bas, ils s'entraînent à frapper sur des poteaux en bois.
Bah ouais, c'est pour endurcir les tibias.
Ouais, mais Karim, là où il va, tu vois, c'est des tonnasses. Moi, je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur des barres de fer, tu vois.
Non.
Putain, là là, ça doit défoncer.
Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi, je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. Voilà quoi. Bon, les gars, désolé, mais j'ai pas de temps à perdre, hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là, j'ai un combat la semaine prochaine.
On a plus. Salut.
Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, c'est un tueur.
Production des Lascars, que connaît bien notre invité, Hakim Gualassi. Mais je voudrais qu'on commence, il est sociologue, notre invité, par faire un peu d'histoire. La boxe thaï aujourd'hui, c'est toute proportion gardée l'équivalent de ce que fut la savate au 19e siècle. Balzac décrit la poitrine découverte et les muscles saillants du prolétaire. Les indices, dit-il, de son tempérament de bronze qui lui a servi de point d'appui pour soutenir tout un poème de malheur. Une de ses armes, au 19e siècle, c'est la savate. Le dictionnaire de Littré consent à dire qu'elle a des règles, mais il la désigne avec un peu de dégoût, une manière de gymnastique, une sorte de sport. Je cite, c'est que la savate, comme la boxe thaï aujourd'hui, jouait des pieds et des coudes autant que des mains. Dans la déréliction des bas quartiers des villes industrielles, elle aida les classes laborieuses à maintenir des groupes et des codes qui leur étaient propres. Aujourd'hui, les classes laborieuses sont largement devenues des classes chômeuses. La virilité et son cortège de vertus austères ne se construisent plus à travers le travail manuel de l'atelier. À ceux qui sont en quête d'un boulot, aux manutentionnaires, aux livreurs, aux agents de sécurité, etc., restent les sports. Encore faut-il que les jeunes les plus aisés, qui les pratiquent à peu près tous, ne viennent pas les y concurrencer. C'est ici que la boxe thaï, comme la savate naguère, peut devenir un champ exceptionnel. Ceux qui s'exténuent à la pratiquer viennent y chercher une assurance. Ceux qui l'enseignent font un travail sur le corps, mais aussi sur l'être social de leurs élèves. Jean-Louis Borloo recommandait la multiplication des coachs sportifs. Les entraîneurs de boxe thaï sont souvent bien davantage. Et ils arrivent même à introduire quelques filles dans leur rang. Sait-on que, contrairement aux idées reçues, les jeunes des milieux populaires pratiquent moins le sport que les autres catégories sociales, et que c'est chez les filles des milieux populaires que le pourcentage des pratiquants sportifs tombe au plus bas.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Hakim Gualassi, sociologue, je l'ai dit, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sociologie pour une thèse qui est devenue un livre auprès universitaires de Rennes et qui est consacrée au sport viril dans les quartiers populaires en France et aux États-Unis, parce que vous avez fait des entretiens puis vous avez été observateur participant dans une salle de musculation, une salle de boxe anglaise. Ça, c'était dans un ghetto à New York et dans un club de boxe thaï dans la banlieue nord de Paris. Alors, ça veut dire quoi, observateur participant?
Alors, l'observation participante, en fait, c'est une approche méthodologique qu'on a développée en sociologie. C'est le fait de se rendre dans un petit univers social afin de l'observer de manière assez précise et fine. Et alors, c'est à la fois observer et participer. Donc, y a une difficulté là à faire les deux, mais l'idée, c'est de s'insérer dans un milieu social, de développer des relations avec les personnes qui se trouvent dans ce milieu social afin d'observer leurs pratiques. De nouer des relations et éventuellement justement
mais vous
avez faire
pas
des entretiens.
Eu trop de difficulté à participer, vous, parce que vous aviez élevé à Aubervilliers l'instinct des sports populaires, non?
Oui, alors ça c'est toujours bien quand on est sociologue d'avoir des formes de compétences qui sont liées au milieu qu'on va étudier. Du coup, en effet, j'ai grandi dans une banlieue populaire, j'ai pratiqué de la boxe thaï, du coup, je suis arrivé comme quelqu'un qui avait déjà des formes de savoir technique, des connaissances aussi des personnes qui s'entraînaient dans ce club. Donc ça facilite l'entrée sur le terrain, comme on dit.
Nous sommes à Blainville, appelons ça Blainville, comme vous le faites, aux Gants du Siam. Appelons ça les Gants du Siam. C'est un petit univers, c'est au centre d'une cité. C'est une salle chaude, hein. Enfin, je veux dire, il y fait chaud.
Oui, très chaud.
Une fois, elle a brûlé, mais seulement une fois, parce que vous dites jamais il y a de vol. Presque jamais.
Alors, c'est arrivé, enfin, dans le temps où j'ai enquêté, il y a eu apparemment un ou deux vols, mais grosso modo, il n'y a pas trop de vols. Enfin, justement, les entraîneurs veillent à ce qu'il n'y ait pas trop d'actes déviants, comme on dit en sociologie, donc de petits actes malveillants. Et alors, quand ça arrive, les entraîneurs mettent tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus, pour éventuellement retrouver les personnes qui ont fait ça, et surtout pour retrouver éventuellement le bien qui a été subtilisé.
Mais j'aime bien quand vous utilisez le vocabulaire sociologique. Par exemple, quand vous dites « j'ai fait de la boxe thaï » quand j'étais au lycée, ça veut dire « socialisation primaire ».
Oui.
Hein, traduit en bon français. Ouais, ouais. Les gamins viennent à la boxe thaï parce qu'ils en ont entendu parler à la télé, au cinéma?
Alors, je pense que c'est l'un des facteurs principaux qui pousse les jeunes des quartiers populaires à pratiquer les sports de combat. C'est l'influence de ce qu'on appelle l'industrie ou les industries culturelles, donc notamment le cinéma. Donc, il y a beaucoup des jeunes avec qui j'ai discuté qui disent que, voilà, moi, j'ai regardé les films de Jean-Claude Van Damme pour les plus âgés d'entre eux. Kickboxer, par exemple. Voilà, Kickboxer, c'est le héros est un pratiquant de boxe thaï. Et plus récemment, les plus jeunes, c'est Ong Bak, un film qui met en scène un Thaïlandais en plus, donc voilà, qui pratique notamment la boxe thaïlandaise. Donc ça pousse les jeunes en effet à pratiquer la boxe thaï.
J'ai jamais été de tendance bagarreur, mais quelquefois, je peux dire que j'ai eu des tendances à des sauts d'humeur, mais c'est comme tout le monde, quoi, c'est sûr, mais j'ai jamais été, je suis jamais senti l'âme d'un vrai bagarreur.
Les grosses gueules, les caïds, ceux qui veulent jouer dur, quoi. C'est pas compliqué, hein. Je les mets sur le ring, et puis ils voient qu'en fin de compte, ils ont pas les épaules assez larges, quoi. Puis soit vraiment ils ont compris, ils se disent, moi après tout, je vais revenir et je vais essayer d'apprendre quelque chose, soit ils sont dégoûtés, ils s'en vont, puis la plupart, ils s'en vont.
Puis à chaque fois, j'entendais parler de la boxe, les combats à la télé, Tyson, tout ça. C'est... La boxe, ça, c'est la bagarre. On a le droit à tout, genou, coup de pied dans la tête, c'est complètement la bagarre, quoi.
C'est un vieux reportage de RFO, 1989. À partir de quand, d'ailleurs, la boxe thaï a-t-elle été reconnue par le ministère des Sports? C'était un sport un peu illégitime.
Oui, c'est les années, si je ne dis pas de bêtises, les années 2000, où il y a vraiment une reconnaissance, fin des années 90, début des années 2000, où il y a une reconnaissance ministérielle. Mais c'est longtemps resté un sport qui était cloîtré dans les caves des cités. Voilà, il a fallu que ça émerge et qu'il y ait des entraîneurs qui deviennent formés à des brevets d'éducateurs sportifs, etc.
On dirait que c'est un avantage parce que tous les autres sports, on y voit la concurrence des jeunes, des classes les plus aisées, qui occupent tout le spectre.
Bah, c'est vrai que les classes moyennes et les classes supérieures, les jeunes des classes moyennes et classes supérieures, ça c'est les statistiques qui le montrent, pratiquent davantage de sport que les classes populaires. Ça, c'est une idée reçue qu'on a à propos des jeunes des classes populaires notamment, qui pratiquent le moins de sport. Alors, non seulement elles pratiquent le moins de sport, mais en plus, l'offre sportive est réduite parce qu'il y a un accès restreint, parce que les familles n'ont pas les moyens à des sports qui coûtent cher, le tennis, je sais pas, le golf, enfin bon, je caricature un peu, mais c'est ça. Et il y a des accès à des pratiques sportives, notamment la boxe thaï, qui sont beaucoup moins coûteux économiquement pour les familles populaires. Donc c'est plus facile d'aller dans
le boxe. Sauf à le faire avec des coachs, individuellement.
Alors, oui. Alors,
pour la self-défense, oui. Contre des classes dangereuses.
Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe dans le monde sportif, on va dire. Mais alors plutôt, à mon avis, chez les classes moyennes et supérieures, évidemment, puisqu'elles ont les moyens de s'offrir des coachs, même si, évidemment, voilà, le plan Borloo,
recommandait 5000 coachs sportifs, oui. Mais qui étaient quand même destinés, j'imagine, à la collectivité.
Oui, et bon, enfin, je pense que ça, c'est une manière d'individualiser, à mon avis, le rapport au sport, et même plus généralement à la culture, d'ailleurs. C'est d'axer sur un rapport individuel.
Bon, vous, ce qui vous intéresse davantage, c'est l'entraîneur. Et on peut dire, d'ailleurs, que l'entraîneur, c'est le personnage principal de votre travail. Nous sommes à Aubervilliers, toujours en 89.
Là, ici, et du bras avant, on vient piquer en uppercut. Ok, une dernière fois, on est là, 1, 2. Depuis qu'il a 14 ans, j'ai toujours été dans son coin, c'est sur moi qui l'ai entraîné, qui l'ai conseillé. Il y a des liens qui sont noués entre nous, c'est pas simplement
prof-élève, c'est une grande histoire d'amitié quoi, entre nous et une grande confiance. C'est un gars qui est surdoué et il a ça dans la peau. Quoi. Il aime la boxe thaï, il vit boxe thaï, il mange boxe thaï, il dort boxe thaï.
Bon, vouloir dans ce sport, hein, parce que c'est un sport très, très dur. Hein. C'est dur à réussir dedans. Pour être champion, faut s'entraîner. Hein. Il faut être sérieux aussi à l'entraînement. Parce que tant qu'on est sérieux, on a du mérite.
Omar a sorti Danny Bill, dont on reparlera, du corps social d'Aubervilliers. Mais l'entraîneur, il s'adresse à davantage de monde qu'au futur champion. Il fait sortir, expliquez-vous, des choses du corps des boxeurs et il y fait entrer d'autres choses. Expliquez.
Alors, oui, alors... Là, on le voit, les extraits sont très intéressants.
On va remercier Frédéric Martin qui les a choisis.
Alors, par exemple, là, c'est Omar, l'entraîneur, donc, qui dit qu'il parle de Danny Bill, qui est l'un des meilleurs, quand même, là, il faut le dire, l'un des meilleurs boxeurs français, qui a un talent exceptionnel, qui boxait comme un thaï, donc c'était un jugement assez positif de la part des connaisseurs. Donc, il dit qu'il a la boxe thaï dans la peau. Donc en fait, alors ce qu'il veut dire, je pense qu'il y a deux lectures, c'est que à la fois il pense qu'il est doué naturellement, qu'il a des aptitudes naturelles pour la boxe thaï, et en même temps je pense que peut-être il le dit sans vraiment s'en rendre compte, que il s'est tellement bien entraîné, il a tellement été bien préparé, qu'en fait il est particulièrement bon, il a particulièrement intériorisé tout ce que l'entraîneur a essayé de lui transmettre comme valeurs, comme normes techniques, même normes sociales qui sont pas forcément liés à la pratique de la boxe en tant que telle. Donc je pense que l'entraîneur à la fois s'appuie sur ce que sont les boxeurs, donc c'est-à-dire des jeunes des catégories populaires qui vivent dans un quartier populaire, qui ont un rapport au corps particulier, alors qui aiment la bagarre, mais voilà, peut-être pas tant que ça finalement, qui aiment l'affrontement, le fait de faire des choses un peu exceptionnelles, voilà, le duel, etc. Et en même temps, c'est légèrement différent. L'entraîneur essaye de sublimer tout ça et d'apprendre aux boxeurs à contrôler leur violence, contrôler leur force, à maîtriser son corps, à se maîtriser, à respecter l'autre. Donc c'est des choses qui peuvent paraître contradictoires mais qui se complètent à mon avis.
Vous aimiez tellement que ça la bagarre et vos parents, enfin, parce que vous parlez beaucoup du rôle du père, du rôle de la mère, qu'est-ce qu'ils pensaient?
Alors, vous parlez de moi?
Oui, bah oui, alors, un peu.
Alors, je vais parler de moi, c'est ce que je fais très, très rarement, mais en fait, alors je pense comme un peu les boxeurs auprès de qui j'ai enquêté. Alors, c'est souvent le père, il est assez content que le fils fasse un sport de combat, voilà, parce que ça renvoie à la masculinité, voilà, etc., la virilité. Et la mère, elle est un peu plus rétive, parce qu'elle a peur que le fils se prenne des coups, etc. Et c'était vraiment le cas de la plupart d'ailleurs des boxeurs avec qui j'ai discuté. Alors, ça, peut-être qu'on y reviendra aussi après. C'est marrant, ça s'inverse pour les filles. Alors, le peu de filles que j'ai rencontrées, c'est presque l'inverse. C'est le père qui est réticent, parce que c'est un univers masculin et il a peur que sa fille soit abîmée. Et puis la mère, peut-être parce que voilà, côté alors, presque féministe, hein, j'ai envie de dire, elle encourage sa fille à aller faire quelque chose.
On en parlera, c'est promis tout à l'heure, voilà. C'est promis à nos auditrices. Mais le père, par le travail, il exprimait les valeurs de masculinité. Maintenant, le travail, il a changé quand il n'a pas disparu. Et donc, il y a un transfert des valeurs de masculinité qui s'apprennent par le sport viril.
Alors, je pense qu'on peut voir ça comme ça. Comme vous l'avez dit, historiquement, voilà, bon, notamment chez la classe ouvrière, les hommes développaient leur masculinité. C'était un des aspects de leur vie sociale où on pouvait développer la masculinité. Et il me semble que... au vu de l'explosion du chômage dans les quartiers populaires, mais pas que, mais notamment dans les quartiers populaires, le rapport au travail est complètement transformé et le rapport à sa masculinité et à son corps complètement transformé. Donc, les salles de boxe où j'ai enquêté, il me semble que ça, c'est quand même un espace privilégié et plutôt préservé d'ailleurs encore, où quoique de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus de filles qui y pénètrent, c'est un espace où les garçons peuvent exprimer des valeurs de virilité.
L'entraîneur, il doit appartenir à deux mondes, et il doit être reconnu au dehors. Il doit d'ailleurs aussi avoir un dialogue avec les élus dans la banlieue que vous étudiez. Les élus craignent comme la peste le communautarisme. Vous savez, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il y a une tétrachie, je cite, d'associations qui font du travail religieux négatif. Comment il fait l'entraîneur pour être reconnu au dehors et être reconnu des élus? Parce que votre héros, l'entraîneur, il est juste électricien et agent de sécurité.
Oui. Alors, il est reconnu pour plusieurs raisons. Alors, il est reconnu par les boxeurs, à la fois parce que c'est un... Alors, je mets des guillemets, un mec de quartier, quelqu'un qui a grandi dans le même quartier qu'eux, ils se connaissent depuis très longtemps, ils sont voisins, voilà. Donc il a un peu tous les codes, on peut dire ça comme ça, tous les codes du quartier, de la cité. C'est évidemment un ancien boxeur, donc qui était un très bon boxeur, donc il est reconnu aussi pour ses qualités pugilistiques. Alors de la part, si on bascule du côté des élus, c'est quelqu'un qui est important dans l'espace local, parce qu'en fait il est perçu comme... un acteur de l'encadrement de la jeunesse populaire, voilà. Et alors, l'entraîneur et les entraîneurs de ce club eux-mêmes le revendiquent, ils disent qu'ils encadrent les jeunes, les gamins les plus durs de la cité. Ce qui n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. Donc, si vous voulez, les entraîneurs sont reconnus par les élus et puis d'autres habitants du quartier pour cette raison principale.
Mais est-ce qu'un entraîneur de boxe thaï qui n'est qu'électricien et agent de sécurité peut être reconnu totalement? En tout cas, il faut qu'il y ait de la musique au club, ça donne la patate. Alors c'est vous qui l'avez choisi là, c'est pourquoi je suis chaud. Alors nous sommes dans le monde américain que vous avez aussi beaucoup fréquenté avec Mims. This is why I'm hot, this is why I'm hot, this is why, this is why, this is why I'm hot, this is why I'm hot, this is why I'm hot, this is why, this is why, this is why I'm hot, I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why, this is why, this is why I'm hot, I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, I don't gotta rap. I could sell a mill saying nothing on the track. I represent New York, I got it on my back. And they say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty, dirty, cause niggas show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit the I watch them get it on the floor. And if you need it hypey, I take it to the Bay. First go to Sac Town, they do it a day. Compton to Hollywood, soon as I hit LA. I'm in that low, low, I do it the Cali way. And when I hit the shy, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm hot, this is why I'm hot.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Sport viril populaire. Comment se faire respecter? Un livre d'Hakim Wallassi qui porte à la fois sur les clubs de boxe ou un club de boxe thaï en France et puis une salle de musculation, une salle de boxe anglaise aux États-Unis. Alors je veux bien que dans les salles de boxe thaï en France, les rings soient baignés d'une musique américaine. Tout de même, le rapprochement là va gêner un certain nombre de vos auditeurs ou de vos lecteurs. La banlieue, c'est pas le ghetto, monsieur.
C'est vrai, pas du tout.
Pas du tout.
Alors, pas tout à fait, plutôt. Mais alors, la comparaison ghetto noir américain et banlieue populaire française, en fait, tient en partie à mon parcours. J'ai me suis retrouvé, pas par hasard, c'est jamais par hasard, mais aux États-Unis en tant qu'étudiant, voilà, en sociologie. Donc, il m'a paru opportun de voilà, comparer deux situations qui sont justement comparables, parce que notamment, même si c'est des configurations nationales, historiques, différentes, il y a des points communs. Alors, c'est des quartiers populaires, relativement ségrégés, où il y a des taux de chômage assez importants, il y a un taux d'échec scolaire relativement important, il y a des taux de délinquance relativement importants, même s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux configurations nationales. C'est des quartiers, alors aux États-Unis, le quartier, en tout cas moi j'ai enquêté, où il y a une majorité d'habitants qui est noir, des Afro-Américains, et alors, à l'inverse, c'est peut-être une différence fondamentale, dans les banlieues populaires, c'est plus mélangé, quoi. Il y a des personnes alors, de diverses origines.
C'est plus mélangé, et vous dites d'ailleurs que ça va étonner beaucoup des bourgeois qui veulent faire des lois de régulation du langage. Vous dites que le vocabulaire il est ethnique, il est utilisé, mais sur le mode de la plaisanterie, pour se chambrer naturellement, spontanément.
Oui. Alors ça, je pense que c'est l'un des paradoxes des choses qui sont un peu ambivalentes ou contradictoires chez des personnes qui vivent des situations de racisme, en fait. Donc, alors si on prend par exemple le cas américain, les jeunes noirs et moins jeunes d'ailleurs se chambrent, hein, si je puis dire, entre eux en reprenant à leur compte des insultes racistes. Hein, enfin, finalement, je vais peut-être pas les dire à l'antenne en français, mais je sais pas, en anglais c'est nigger.
Ah bah oui, c'est mieux
voilà,
comme ça.
Enfin, ouais. Voilà, enfin, et donc ils se chambrent sur un mode raciste c'est une manière en fait de déjouer aussi le racisme. Hein, et puis de... Alors en France, hein, ça arrive aussi, c'est moins, il m'a semblé que c'était moins fort, mais quand même, enfin...
Puis il y a une différence aussi, c'est que, dites-vous, le corps noir, 86% de noirs dans le quartier que vous étudiez, il est quand même déprécié. Les couples mixtes ne sont pas si nombreux. Tandis que, en France, le corps arabe, le corps noir, il est souvent vu désirable.
Alors, je pense que bah, dans les deux cas, en fait, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a un rapport au corps altérisé, enfin, qui est rendu autre, qui est toujours ambivalent dans une société où il y a des mécanismes de racisme. À mon avis, il est à la fois, c'est un corps qui est toujours à la fois honni et à la fois désiré. Il y a quelque chose, à mon avis, le corps noir, c'est d'autant plus vrai pour le corps noir afro-américain. Ça renvoie à toutes les pubs, on voit un corps noir musclé, sculpté, donc finalement à toutes les représentations racistes, en fait, parce qu'on pense qu'un corps noir, c'est musclé naturellement, ce qui est totalement faux. Enfin, les sportifs, moi, je les ai vus se fabriquer des muscles. Ils n'arrivent pas forcément musclés, hein. Ils arrivent peut-être des fois enveloppés, parce que d'ailleurs, dans les quartiers populaires, l'obésité explose. Donc, voilà, ça renvoie, je pense, à une ambivalence dans ce rapport au corps.
Regardez Danny Bill, alors le champion dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pris sa retraite qu'en 2011 et qui est d'origine camerounaise.
Ce que j'aimerais plus tard, c'est que la boxe-thaï soit payée. Payé, mais quand je dis payé, c'est payé. C'est pas à côté, tu travailles. Quand je dis, c'est métier. Vu que je passe en semi-pro, en classe A, donc je suis obligé de passer par la Thaïlande. Ici aussi, on s'entraîne bien, mais la Thaïlande, c'est encore plus difficile. Et on apprend mieux. Parce que là-bas, c'est leur métier, quoi, la boxe, le Muay Thai. Et à chaque fois, on me dit que les Thaïlandais, ça frappe, c'est sec, ça frappe. Bon, on va les tester, c'est bon. On va regarder ce qu'ils ont. On va les trip.
Tous ceux qui sont accrochés ici, c'est des vrais champions là-bas en Thaïlande. Et c'est un art. Alors c'est pour ça que je les ai collés ici, car c'est des stars. C'est le plus grand champion réputé en Thaïlande, parce qu'il a 9 ceintures. Et jamais un Thaï a dépassé 5 ceintures en Thaïlande. Celle-ci, je vais remporter une victoire dans le meilleur stade thaïlandais, c'est le Lumpini. Le Lumpini, il n'y a que des grandes stars qui boxent dans ce stade-là.
Extrait notamment d'un film Un voyage d'enfer de Arnaud Mansir. Alors, il y a des photos des grands champions là, qui sont affichées au mur de Danny Bill. Et puis il dit payer, hein, payer, c'est payer, comme aurait pu dire Yacine Bellatar, qui était le maître de cérémonie hier de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les acteurs de banlieue. En même temps, la professionnalisation n'a pas gagné vraiment le milieu que vous avez étudié.
Alors, la boxe thaï peine toujours à être reconnue en France. Donc, en effet, il y a très peu de boxeurs français qui sont professionnels. Alors moi, je peux prendre l'exemple là, concret du club où j'ai enquêté. Il y a un boxeur qui est parvenu, à l'époque où j'ai enquêté, à obtenir un contrat professionnel. Et encore, il était en contrat avec une boîte hollandaise. Mais sinon, donc, c'est des boxeurs. Après, si on descend dans la hiérarchie, c'est des boxeurs qui sont payés au combat, mais qui n'ont pas vraiment de contrat professionnel. Alors, si je me permets la comparaison, aux États-Unis, c'est un peu différent puisque c'est un club de boxe anglaise. Donc, c'est une discipline qui est quand même plus reconnue, qui a un espace médiatique beaucoup plus important. Du coup, là, en effet, il y avait beaucoup plus de boxeurs professionnels dans le club new-yorkais.
Bon, mais vous insistez aussi sur les vertus d'absence de pression de l'argent et sur le rôle positif que les champions, qui sont bénévoles dans les clubs, peuvent avoir. Et les filles vont réclamer les auditrices.
Tu parles à qui, toi? C'est à qui tu parles? Arrête de faire la maline. Arrête de faire la maline.
Non, mais c'est quoi?
Pourquoi? Toi, t'es qui, toi?
Où êtes-vous? Qui vous?
Mais
t'es qui, toi?
T'es qui? Tu vas même pas rater.
Non, mais t'es qui, toi? Comme toi, t'es carré, t'as des gros bras.
Je sais pas qui.
Mais je sais pas, t'es là, tu prends pour qui?
Je sais pas qui.
Vous, mais non, mais c'est toi, tu prends pour qui?
Où votre pote, là? Il en manque pas une.
Pourquoi tu parles?
Un gros matin, elle est où? Mais dis, elle est où? Pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Et un truc de ouf ou quoi? Parce que là, tu fais la baline, t'es sur ta chaise, la tête de moi, pars pas avec moi. Moi, je t'envoie mes petites, moi, défonce direct. Hein, y'a pas de moi, je pars pas.
T'as besoin de quelqu'un, t'as besoin de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un.
Miskine.
Elle a besoin des gens. Elle a besoin de gens, c'est une bouffonne, la tête, tu n'aimes pas.
Vas-y, bref, moi, je pars pas avec toi, stop.
Le film Bande de filles de Céline Sciamma. Moi, d'instinct, je vous dirais, j'y crois pas beaucoup à ce langage.
Alors, je pense.
C'est vraisemblable ou pas?
Bon, alors moi, là, je parce que je peux me situer à différents niveaux en tant que Hakim Wallassi, qui n'est pas sociologue, et là, je pourrais dire. Mais alors, en tant que sociologue, ce que je peux dire sur les terrains où j'ai enquêté, en effet, je n'ai pas retrouvé ce genre de langage ou ce genre de scène, mais bon, je ne mets pas forcément en cause leur existence. Mais par exemple, si je m'en tiens aux boxeuses que j'ai observées, avec qui j'ai discuté dans le club de boxe thaï, voilà, c'était pas du tout ce type de profil, quoi. Et elles n'avaient pas forcément ce langage, d'ailleurs.
Elles sont 4 sur 50. Et alors, elles sont à part ?
Alors, c'était quand même un type de profil particulier, ces filles. Alors, bon, évidemment, c'est des filles qui ont grandi dans un quartier populaire, en cité. Alors, c'est souvent des filles, quand même, qui avaient une sorte d'esprit combatif quand même, c'est un peu ce qui revenait. Si je compare à la salle, par exemple la salle, c'est là où il y avait une seule fille aussi, la salle de musculation, il y avait quand même quelque chose de commun à ces filles, c'est qu'elles avaient une sorte d'esprit combatif, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ce qui les regroupe.
Alors les sports virils populaires, mais avec des filles, que les entraîneurs sont très intéressés à avoir. C'est un livre aux presses universitaires de Rennes. Je ne sais pas si je m'adresse à Hakim Wallassi ou aux sociologues. Dans ce qu'a dit le président de la République aux acteurs de banlieue, il y a une tétrachier d'associations dont beaucoup n'ont pas des résultats positifs. Il faut des réseaux avec des leaders. Il n'y a pas là quelque chose dans le discours qui est en train d'évoluer au centre de l'État?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a un changement, même une rupture, on pourrait dire. Enfin, alors c'est difficile de parler de quelque chose qui est assez frais, mais depuis plusieurs décennies, en fait, les politiques de la ville étaient plutôt axées sur la création du lien social, voilà, tout ce qui est solidarité, quelque chose qui relève du collectif. Et là, j'ai l'impression que ce qui se pointe, c'est quelque chose qui relève plus d'un processus un peu individualisant. On mise sur des personnes, des individus, et on mise moins sur du collectif. Donc là, le plan Borloo, insister sur le coach ou le coaching sportif, on voit bien que c'est un rapport individualisant. Donc c'est un coach qui entraîne un individu, par exemple, même si c'est plusieurs, mais il y a un rapport un peu individualisant. Et ça évacue d'ailleurs tout l'aspect social qui est hyper important dans le rôle de l'entraîneur. Le coach, là, on voit bien que c'est quelque chose qui est purement sportif ou physique, quoi. Donc je pense, en effet, il y a une rupture et peut-être même une convergence vers ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le club où j'ai enquêté, justement, c'était vraiment les entraîneurs. Alors, insistaient sur le fait de créer des leaders. Ils avaient envie des champions, évidemment, d'un point de vue sportif, mais au-delà de ça, des leaders. Donc, il y avait pareil une dimension hyper individuelle.
Je me sens bien, je me sens vidé. J'ai l'impression d'avoir passé, écoulé toute ma journée. On a toujours une nervosité quelque part. Et ça, on a besoin de le libérer. Et je crois que c'est pas plus mal.
La préparation, Frédéric Martin avec Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille. À la technique, Ludovic Asselot. Et chez vous, Mathieu Villard.
Un anniversaire, Jean, dans un instant. Ce sera le numéro 100 du magazine Cerveau et Psycho. 15 années dans ce domaine pour discuter justement de l'évolution de la recherche sur le cerveau.
Dans la tête au carré, un peu après le flash d'information.